On est en ligne avec Raphaël Jérusalem. Raphaël, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Et donc, on a ce rapport qui a été publié sur la sécurité en Israël pour 2023, dont on va discuter avec vous. Et petite surprise, contrairement aux estimations précédentes, l'Iran n'est pas le centre d'intérêt principal. Seulement, visiblement, l'une des pièces d'un puzzle mondial complexe, et le rapport estime qu'elle ne franchirait pas les lignes rouges du programme nucléaire. Vous y croyez?
Par rapport aux lignes rouges du programme nucléaire, oui, car elle ne franchirait pas pour l'instant. C'est-à-dire que l'estimation serait que bien que les Iraniens soient très proches du nucléaire militaire, puisqu'ils ont un uranium enrichi à 60%, ce qui leur permet en moins d'un mois de passer à 90% et donc au nucléaire militaire, ils n'ont pas encore la technologie pour faire de ce nucléaire militaire une arme, c'est-à-dire pour le monter sur l'ogive d'une tête nucléaire, d'une tête de missile. Et donc on estime pour l'instant qu'il n'y a pas un intérêt stratégique pour l'Iran de passer immédiatement dans la conjoncture actuelle au nucléaire militaire. Cela ne veut pas dire qu'ils ne préparent pas tout pour passer très très rapidement d'un moment à l'autre. Donc la menace demeure réelle. C'est juste le temps qui devient de plus en plus court, que cela va prendre entre une décision aux politiques des ayatollahs et sur le terrain l'arrivée d'armes nucléaires. Donc oui, cette estimation me semble correcte.
Alors, le rapport parle aussi des tendances mondiales qui ont en fait un impact sur Israël et notamment de l'affrontement entre les États-Unis et la Chine qui devrait se poursuivre, s'intensifier et qui a visiblement des conséquences importantes, Raphaël Jérusalem.
Alors exactement, par le passé, c'était le Proche-Orient et les conflits, surtout israélo-arabes, qui menaçaient la stabilité de la région et même du monde, ne serait-ce que parce qu'il y a toute cette production pétrolifère au Proche-Orient qui concerne le monde entier. Eh bien aujourd'hui, c'est à l'envers, c'est les instabilités à travers le monde qui menacent la stabilité du Proche-Orient, de l'extérieur, de loin, avec évidemment en tête la guerre des Russes contre l'Ukraine, qui fait qu'il y a l'entrée dans la danse des Iraniens, et avec cet accord de défense qui existe maintenant entre la Russie et l'Iran, il y a un axe du mal, dirons-nous, qui est Russie, Iran, Chine, avec la construction de canaux et de chemins de fer qui s'appelle la route du mal d'ailleurs, puisque elle va créer un corridor du golfe Persique jusqu'en plein cœur de la Russie, un corridor qui sera sous aucun contrôle étranger, qui permettra tant à l'Iran qu'à la Russie de contourner toutes les sanctions. Et il fonctionne déjà d'ailleurs assez bien, et des marchandises circulent dans ce corridor, et surtout de l'armement. Il semble que les échanges d'armement entre Russes et Iraniens se font sans encombre, sans que nul ne puisse faire quoi que ce soit. Et ce corridor est aussi un accès pour la Russie vers l'Asie, vers l'Inde, vers la Chine, et se crée donc une sorte de bloc de l'Est, de bloc asiatique face au bloc occidental. Et effectivement, la politique américaine, assez agressive à l'égard de la Chine, mais plutôt passive à l'égard de l'Iran, par exemple, eh bien, a créé en fait cette scission du monde en deux, bloc asiatique, bloc occidental, qui est extrêmement dangereuse. Et il se pourrait bien que la grande déstabilisation de l'économie mondiale et de la paix mondiale viennent plutôt de Taïwan que de Téhéran.
Alors justement, cette guerre en Ukraine, elle a aussi des répercussions très immédiates, on va dire, sur la région du Moyen-Orient. Par exemple, en Égypte et en Jordanie, il y a des crises alimentaires économiques sans précédent, notamment en raison de la hausse des prix des céréales et à cause de la guerre en Ukraine. L'Égypte a déjà reçu 3 milliards de dollars du Qatar hein, et visiblement, ça plus le Liban qui est un État défaillant, Israël va devoir aider l'Égypte et la Jordanie pour essayer de maintenir un équilibre régional, Raphaël.
Absolument, et des contacts ont déjà été pris. Ce n'est pas qu'Israël n'était pas auparavant. Israël approvisionne la Jordanie en partie en eau. Plus de 50 millions de mètres cubes d'eau sont alloués à la Jordanie chaque année par Israël. Ce chiffre a été plus que doublé pour aider le problème de l'eau en Jordanie. La même chose est faite par rapport à l'Égypte, avec aussi un programme de développement de l'irrigation avec des systèmes technologiques modernes développés en Israël. Donc ça, c'est pour l'eau. Sur le plan de l'énergie, sur le plan humanitaire, même des médicaments, il va y avoir donc une aide israélienne. C'est peut-être là que vont se croiser donc les gens qui travaillent pour le Qatar, les gens qui travaillent pour Israël dans cette mission, car il est effectivement très très mauvais pour la santé et la sécurité d'Israël qu'il y ait cette instabilité à ses portes. Ouais. Pour l'instant, le régime jordanien n'est pas menacé de s'effondrer, ni le régime égyptien, mais il est quand même très affaibli. La Jordanie est un peu plus en danger dans la mesure où il y a une immense population palestinienne qui n'est donc pas très très amie du royaume hachémite. C'est plus menaçant, dirons-nous, pour eux. Au Liban, les problèmes que subit ce Liban à long terme risquent d'être dangereux pour Israël. À court terme, ils occupent fortement le Hezbollah sur le front intérieur, et donc le Hezbollah ne se trouve pas en état ou n'a pas le désir d'entrer en conflit direct avec Israël à ce stade, puisqu'ils sont occupés à gérer la crise du Liban et leur baisse de popularité, puisqu'ils sont en partie responsables de la crise qui a lieu au Liban, responsable avec évidemment la corruption endémique des gouvernements successifs libanais. En Égypte, qui est aussi une semi-dictature, il faut bien le reconnaître, la situation économique est gravissime, avec un danger donc de sécheresse, mais de famine. Ce sont des voisins d'Israël sont en mauvaise posture.
Oui, c'est vrai. Donc le rapport estime effectivement, comme vous l'avez dit Raphaël, que le Hezbollah va être encore préoccupé par des questions internes au Liban et donc que ça, ils chercheront à éviter l'escalade. Par contre, l'Iran est toujours le bienfaiteur financier du djihad islamique palestinien et une bonne source de financement du Hamas.
Oui, tout à fait. L'Iran ne désarme pas sur tous les fronts d'ailleurs que mène l'Iran avec ses proxys, que ce soit à Gaza, que ce soit en Cisjordanie, que ce soit au Liban, en Libye, au Yémen. L'Iran continue d'agir, ce qui montre évidemment l'inefficacité totale des sanctions que les Européens et les Américains ont imposées à Téhéran, ce qui montre que effectivement tout l'argent en Iran est consacré à des velléités djihadistes et de conquête du monde et rien n'est laissé à la population iranienne qui, elle aussi, comme en Égypte, comme en Jordanie, souffre économiquement. Le prix de l'essence est très élevé, le prix de l'eau, de l'électricité, il y a des coupures d'électricité sans cesse, les soins médicaux sont très très mauvais. Donc il y a effectivement cette velléité des ayatollahs de continuer à appuyer sur la pédale terroriste et à chercher à désarçonner la sécurité israélienne, ce en quoi ils réussissent, car la vague d'attentats récente a obligé bien des bataillons de Tsahal à s'occuper de la sécurité dans les territoires, alors qu'ils devraient s'entraîner justement sur le plan d'une guerre par rapport au Hezbollah, par rapport à l'Iran, d'un conflit militaire traditionnel, et non pas faire la police dans les territoires. Malheureusement, nous n'avons pas le choix, nous n'avons pas assez de police pour le faire, et bien des bataillons de Tsahal sont neutralisés, immobilisés par cette guerre incessante terroriste, donc financée effectivement en majorité par l'Iran.
Ma dernière question, Raphaël Jérusalem, c'est effectivement, contrairement à ce qui se passait avant, le rapport de Tsahal pour 2023 ne considère pas Gaza d'un côté et la Judée-Samarie de l'autre comme deux endroits distincts, mais bien comme un seul endroit qui préoccupe Israël. Et l'accent principal du rapport 2023 a été mis en fait sur ce qui se passerait à la succession de Mahmoud Abbas et sur la direction que pourrait prendre l'autorité palestinienne. C'est ça qui inquiète vraiment Israël pour 2023.
Exactement. Nous attendons un chaos dans l'autonomie palestinienne, tant à Gaza qu'en Cisjordanie, lors de la guerre de succession à Mahmoud Abbas. Cela inclut bien sûr la guerre endémique qu'il y a entre le Hamas et l'OLP, mais également, à l'instant même de l'OLP, il y a des factions dissidentes, il y a des modérés contre des extrémistes, il y a Marwan Barghouti qui est emprisonné dans les geôles israéliennes et qui a une grande popularité au sein de la population palestinienne. Et donc, il y a énormément de divisions. Ça rappelle d'ailleurs un petit peu la politique israélienne, la divergence et le nombre de partis et de factions qui vont donc causer un chaos qu'on redoute, puisque ce chaos donnera la part belle, évidemment, aux terroristes et aux extrémistes. Je Merci. Pense, là où je suis pas tout à fait d'accord avec le rapport de l'intelligence militaire, c'est d'avoir mis dans le même panier Gaza et la Judée-Samarie. Je pense qu'il y a encore une distinction très nette entre ces deux zones. C'est des populations palestiniennes différentes. C'est vrai qu'ils sont toutes deux dans la misère, sous une sorte de tyrannie, et avec des régimes corrompus, aussi bien celui de l'OLP que celui du Hamas. Mais il y a quand même une grande différence entre le Hamas, qui est une organisation religieuse islamique salafiste, et l'OLP, qui demeure malgré tout un petit peu plus à l'écart de la religion et plus proche d'une lutte pour une indépendance nationale.
Merci beaucoup, Raphaël Jérusalmi, pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes écrivain et ancien officier des renseignements militaires. Bonne journée.
Bonne journée.